Bonjour à tous, c'est la rentrée pour l'Écho des Ciments, CFM, une émission en partenariat avec l'association Canopée. Et aujourd'hui, le membre de l'association Canopée, association de défense de l'environnement, de sensibilisation à la protection de notre environnement, le membre de l'association aujourd'hui qui est avec nous dans le studio, c'est Thierry Eladjen. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Tout va bien?
Oui, très bien.
Vous avez passé un bon été?
Oui, très pluvieux, mais avec un petit peu, peut-être pas assez de soleil.
Ah bah ça, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Ou alors, soyez partis très très loin. On va parler énergie et habitat dans cette émission L'Écho des Cimes en CFM. C'est un petit peu votre spécialité, l'habitat, les énergies renouvelables. Thierry, c'est à la fois une passion et votre métier.
Voilà, alors c'est une passion, c'est un métier à deux titres. Je fais de la formation pour adultes dans ce domaine-là. Et puis quand je suis pas vacataire, je travaille sur des études réglementaires sur la RT, ce qu'on appelle la RT 2012, réglementation thermique 2012, pour la construction des maisons neuves.
D'accord, c'est une réglementation. Bon, on va développer dans cette émission, sans plus trop se prendre la tête. Mais l'objectif de cette réglementation, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'elle est... Les constructions neuves soient moins consommatrices d'énergie, c'est quoi?
Voilà, donc c'est la quatrième, la cinquième réglementation. Et à chaque fois qu'il y a des soucis de prix d'énergie, de pénurie, eh bien, on ressort une réglementation thermique. Donc 2012 est une réglementation intéressante. Je développerai un petit peu plus. Je dirai pourquoi elle est intéressante et certainement ses lacunes aussi, hein, puisqu'elle doit être complétée.
Ah bah, il y aura sans doute une... Alors 2014, non, apparemment, mais peut-être il y aura une RT 2015.
Alors 2020, certainement.
2020, oh là là, d'accord. Donc oui, on va bien étudier la 2012. Hein, on en prend pour 8 ans. On va parler énergie et habitat aussi dans cette émission L'Écho des Cimes en CFM avec notre second invité, enfin l'invité de l'association Canopée, c'est Julie Butcher qui est avec nous. Bonjour Julie.
Bonjour.
Julie, elle est architecte.
Oui.
Tout simplement. Elle exerce son métier du côté de Mur de Barrez.
Oui.
Et de
Paris.
Voilà, grand écart
oui,
quand même.
Grand écart, oui.
À la fois géographiquement
pas,
et peut-être
pas
aussi...
Très, dans... Pas très économique en énergie humaine.
Ah bah ça dépend comment vous faites le voyage.
Oui, on est humaine, hein, parce qu'après l'énergie grise, je suis en train.
D'accord, oui, alors l'énergie, vous, c'est aussi un sujet sur lequel vous êtes sensibilisé personnellement.
Oui.
Et par ailleurs, en tant qu'architecte, est-ce que là aussi, vous avez la volonté personnel et professionnel de plus particulièrement faire des plans de construction qui ont vocation à être très économes en énergie.
Oui. Mais pareil, là, on va pas tout redire sur tout ce qui est construction écologique dans la manière de concevoir, parce que ça, on finit par ne savoir qu'il faut beaucoup de vitrage, profiter de l'apport solaire, l'orientation de la maison, plein de trucs qu'on ne fait que répéter. Mais il y a des points sur l'énergie du bâtiment qui deviennent de plus en plus normalisés, de plus en plus contraignant, qui est très difficile pour les artisans, qui est très difficile humainement pour les artisans, surtout pour les petites entreprises. Et donc, je m'intéresse à l'énergie, effectivement, en utilisant des matières renouvelables qui ont un impact faible au niveau énergétique, au niveau de la construction. Mais aussi, j'ai un gros travail avec les clients sur la manière d'habiter. Comment faire pour sans rentrer dans des technologies extraordinaires, comment habiter sereinement et écologiquement. Donc,
vous allez nous donner quelques petits éléments dans cette émission, Julie, parce que oui, je suis curieux là.
Ben, c'est déjà beaucoup d'écoute.
Écoutez quoi, ces murs?
Écoutez ces murs, ouais. On peut écouter la nature, oui. Non, mais écoutez, il y a un gros travail de contact humain.
Ah d'accord, avec les personnes.
Avec les personnes,
d'accord.
Ouais, ouais.
Bon, on va en parler dans cette émission, L'Écho des Cimes en CFM. On va d'abord commencer par écouter un morceau de musique hein, pour se retrouver ensemble et voir un petit peu ce sujet de l'énergie et de l'habitat. Mais avant d'écouter Gaëtan Roussel, hein, votre choix Thierry Eladjen et le titre Help Myself, juste comme ça, et question piège, peut-être pas d'ailleurs, mais l'habitat dans la consommation totale de l'énergie, ça représente... une grosse part, une petite part dans la consommation d'énergie mondiale. L'habitat, c'est... Enfin, si on fait l'économie là-dessus, est-ce qu'on fait vraiment l'économie globalement ou est-ce que c'est du trois chiffres après la virgule?
Bon, je voulais pas trop parler de chiffres, mais je vais dire ce chiffre-là.
Il le sait, on peut prendre.
Aujourd'hui, l'habitat, c'est 40% de l'énergie finale qui est consommée dans l'habitat. C'est le premier poste de consommation. Et ensuite,
40%
vient le transport. Oui.
D'accord. Dans l'énergie mondiale qui est consommée chaque année, il y en a 40%, c'est pour l'habitat?
Ouais, ouais. Ah. Alors, l'habitat, la construction.
Oui. Oui, la construction, voilà. Le chauffage. Oui,
c'est
ça. Oui, d'accord.
Aussi, voilà, un fonctionnement et en construction.
Construction des routes, construction tout en général?
L'habitat en général.
Ah ouais, vous comptez les routes?
Je suis pas sûr que les routes en fassent partie de l'habitat.
Ouais, moi non plus. Enfin, ça dépend des gens, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, mais en tous les cas, oui, donc on est dans des proportions énormes sur la part de la consommation énergétique.
Oui, c'est le premier poste de consommation énergétique.
Donc un gros enjeu pour des associations, notamment Canopée et tous ceux qui veulent bien tenter de réduire la facture énergétique.
Et surtout le scénario Négawatt, l'association Négawatt, dont on pourra dire peut-être quelques mots tout à l'heure.
Eh bien, on va recommencer avec ça juste après Gaëtan Roussel, Help Myself, dans l'écho des Simon CFM. C'est l'écho des CIM en CFM, la thématique de cette émission en partenariat avec l'association Canopée. Aujourd'hui, c'est énergie et habitat. Et on en parle avec nos deux invités, Thierry Eladjen, qui est membre de l'association Canopée. Et par ailleurs, à travers son bureau d'études et son activité professionnelle, engagé dans les questions d'énergie renouvelable. Hein. Thierry, vous êtes, je rappelle, formateur pour adultes, d'une part.
Oui, tout à fait. Alors, énergie renouvelable, c'est une chose. Compte tenu du pouvoir des énergies renouvelables, on est sur les économies d'énergie aussi.
D'accord.
Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Vous faites partie de CAPCOP.
Oui, effectivement.
On explique de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas.
Donc, CAPCOP est une SCOP, une coopérative d'activité économique, où il y a plusieurs entrepreneurs. Nous sommes des salariés entrepreneurs. Nous créons notre propre activité. Et CAPCOP a la spécificité d'être généraliste. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai des collègues qui sont, qui peuvent être coiffeurs, vendeurs de fromage. Hein. C'est très, très hétérogène. Et c'est d'autant plus intéressant que, on a des échanges très riches dans l'économie sociale et solidaire, puisqu'en fait, nous avons aussi, de temps à autre, des matinées thématiques où chacun propose un thème, se rallie ce thème qu'il veut, de la SCOP, et nous partageons un petit peu notre savoir, en toute modestie, mais juste pour en faire profiter nos collègues. Voilà, voilà notre façon de partager notre activité professionnelle.
Avec nous aujourd'hui aussi dans cette émission, l'École des Ciments en CFM, Julie Botcher, qui est architecte à Mur de Barrez et Paris, et qui est sensibilisée à ces questions d'énergie. Alors vous parliez juste avant que l'on écoute le ruthénois Gaëtan Roussel, vous me parliez du scénario Négawatt. Est-ce qu'on peut rappeler, pas vous, Julie, je sais, oui, pardon, c'était Thierry. Thierry qui nous en parlait. Non. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi il s'agit précisément?
Alors, le scénario Négawatt, c'est une thématique qui est très chère à Canopé. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il est reconnu d'une manière universelle que l'humanité est confrontée à la fois au gaz à effet de serre et aussi à la pénurie des énergies fossiles. Donc, il faut y répondre. Aujourd'hui, donc, les scénarios proposés par les autorités étaient un petit peu trop hésitants. Et donc, une association qui s'appelle Négawatt a proposé donc des scénarios. Un scénario pour essayer de sortir un petit peu de notre façon de vivre aujourd'hui.
Ah, d'accord. Devant l'impasse à venir sur les énergies dont vous parliez, cette association, enfin ce regroupement, donc, propose des solutions.
Oui, c'est ça. C'est d'accord. Ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une posture de critique négative, on est vraiment dans de la critique constructive et on va proposer des actions, des orientations pour essayer d'avoir une transition énergétique le plus doux possible et le plus confortable possible, puisque nous vivons dans un confort qui est assez, assez fort aujourd'hui.
Quoi. C'est clair. Mais quand vous dites transition énergétique, c'est-à-dire remplacer ces énergies fossiles, les polluantes notamment, et puis qui produisent des gaz à effet de serre par des énergies renouvelables, part pour part, ou bien par ailleurs aussi, ou en plus, réduction de la consommation d'énergie.
Alors, pour répondre à cette question, on va utiliser le triptyque de Négawatt, c'est-à-dire que Négawatt travaille sur trois axes. Le premier axe, c'est la sobriété énergétique. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. Et le troisième, ce sont les énergies renouvelables. Puisqu'en fait, si on prend un kilowattheure de pétrole, pour retrouver un petit peu cette même énergie en termes de renouvelables, on n'aura pas cette disponibilité immédiate. On aura du mal à l'avoir. Donc, on va essayer d'être moins énergivore dans les bâtiments pour pouvoir pallier avec des énergies moins concentrées, on va dire.
Julie, je rappelle que vous êtes architecte, jeune architecte, hein, je peux le dire. Dans votre formation, ces questions de dépenses énergétiques, de réduction de la consommation d'énergie, dans vos études, ça a une place d'architecte. Ça a une place importante, c'est un truc récent, ou alors non, on l'apprend après. Comment c'est
ça? Moi, ma formation, c'est il y a 15 ans déjà, donc non. Nous, enfin, dans la formation que j'ai eue et que j'ai vraiment beaucoup aimée, on apprend à faire du projet avant tout. C'est sûr que à travailler l'espace, à travailler la lumière, c'est le côté artiste de la profession. Et au niveau moi à mon époque, au niveau des énergies, non, on n'en parlait pas du tout.
Ah bon ?
On avait les techniques traditionnelles, ventilation simple flux, isolation laine de roche polystyrène 10 cm dans les murs, voilà, on apprenait un béaba. C'est déjà quand on se confronte au bâtiment, au projet lui-même, et puis qu'on commence à être sensible tout simplement parce qu'on n'a pas besoin forcément que le gouvernement d'un seul coup se rende compte que c'est la catastrophe pour se rendre compte soi-même que c'est catastrophique déjà à dépenser de l'argent inutilement dans le chauffage alors que effectivement bon, une des énergies les moins coûteuses c'est déjà qu'on n'a pas besoin d'énergie donc
c'est sûr.
Donc le gros travail est là-dessus.
Enfin, il faut bien avoir chaud quand même.
Oui, bien sûr, mais pour ça, on n'a pas besoin forcément de dépenser beaucoup d'énergie. Il faut éviter qu'il y ait trop de déperditions, quoi. Mais moi, quand j'ai fait mon master architecture bois en 2009, c'est la période à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ça, aux énergies renouvelables, déjà, et puis du coup, en symbiose, ce besoin d'économie énergétique. Et bien avant qu'on nous ponde, bon, on entendait déjà parler de la RT 2012, hein, mais moi j'ai commencé à faire des maisons basse consommation avant qu'on m'impose la réglementation.
Et quand vous les faisiez, ces maisons, c'était des demandes des clients,
oui.
Ou vous, une démarche personnelle, parce que on va y venir au coût et à tout ça.
Oui, il y a de la demande.
Ouais.
Et puis en général, ben je vais être attirée par les clients qui ont ce genre de demande.
La chance de pouvoir choisir vos clients, vous.
Ben j'essaye de vivre de manière à m'attirer ces gens-là. Maintenant, je travaille pour des gens qui sont très énergivores aussi, ah ouais. Qui construisent des très grandes maisons.
Des usines à gaz. Julie, fait quoi,
des usines à gaz. Mais par contre, moi, je m'oppose jamais aux besoins, aussi artificiels soient-elles, mais des gens, je les écoute et je propose. Après, les gens disposent, je suis pas là pour réglementer, hein.
On revient Thierry Aladjane avec vous rapidement. Donc, scénario négawatt. Vous me dites plusieurs scénarios.
Plusieurs axes, hein, oui.
Plusieurs axes, donc, qui seraient, pour Canopé et ses amis, les personnes, qui prennent cette sobriété énergétique, qui seraient les bons. Donc, ça se traduirait comment? Globalement, avant de revenir à la réglementation qui apparemment vous satisfait pas tous les deux, complètement, j'ai le sentiment.
Tout à fait, elle est perfectible, hein, il n'y a aucun problème.
Moi, c'est le principe de réglementation.
Ah oui, la Julie, c'est la réglementation qu'elle est.
C'est, oui.
D'accord.
Enfin, pour moi, une règle, elle est faite pour être transgressée, donc.
Vous qui êtes architecte, dont la règle est un instrument de travail, qui dites ça?
Non, je suis pas que. Moi, j'ai ma formation, je suis architecte déjà. Bien sûr, effectivement, l'étiquette qu'on accole à l'architecte, c'est un technicien.
Alors vous utilisez
oui.
une règle.
Oui, mais il y a vachement de créativité, il y a une grosse part créative.
Bien sûr. Pardon, Thierry.
Alors, pour rattacher un petit peu les propos de Julie, on est bien dans l'efficacité, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir besoin d'un bâtiment neuf, ne pas utiliser forcément des matériaux qui, énergétiquement parlant, n'ont pas eu une grosse consommation pour leur création, mais le résultat, on va regarder le résultat, ce résultat, il faut que ce soit un bâtiment efficace pour éviter d'avoir trop de CO2, d'utiliser trop d'électricité.
Parce que là, par exemple, ces derniers jours, moi, à la télé, dans les médias, j'ai vu au niveau du gouvernement, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, je crois, et donc elle parlait d'une réglementation ou d'une loi, je ne sais plus, qui concernait les constructions publiques. Enfin, les commandes publiques, avec des constructions qui devaient être positives en énergie, enfin, qui devaient plus produire d'énergie que l'on consomme, ou quelque chose comme ça.
Mmh. Oui, là, vous faites allusion au bâtiment à énergie positive.
Voilà. Donc là, on n'est même pas dans la réduction, on est dans, d'après ce que j'ai entendu à la télé, dans les journaux de 20h, on est même, on produit de l'énergie en plus, quoi.
Oui, mais bon, produire de l'énergie pour produire de l'énergie, c'est pas une finalité, quoi.
Ouais. Ça, c'est pas bête, ouais.
Donc, à un moment donné, si on est vraiment sur des principes de sobriété avec du matériel, avec des fameuses classes énergétiques A+, etc.
Ah oui.
Encore, bon, ça, il y aura encore des choses à dire là-dessus. Hein. Donc, on aura besoin de moins d'énergie. Alors, effectivement, on va commencer par un bâtiment à consommation neutre.
Qui consomme pas plus que ce qu'il produit.
Voilà. Et ensuite, on va le compléter peut-être avec des panneaux photovoltaïques ou du petit éolien. Et là, on sera un bâtiment à énergie positive.
Ouais. Mais donc, ça a un intérêt d'avoir des bâtiments à énergie positive? Parce que moi, je me suis posé la question en voyant ça à la télé. Mais pourquoi ils se prennent la tête à produire plus d'énergie
positive? Positif, c'est pour ensuite le revendre aux voisins.
Voilà.
Qui, lui, a pas de bâtiment à énergie positive.
C'est les points.
Si tout le monde a des bâtiments à énergie positive, qu'est-ce qu'on fout de toute cette énergie qu'on a en...
Alors, comment ça s'appelle, là, ces points où les entreprises peuvent acheter des points carbone? Ici, ils sont très consommateurs.
Les certificats d'économie d'énergie. Ils achètent ça, oui. C'est quelque part un droit à polluer.
Oui,
c'est ça.
Un droit à polluer. Ouais.
Ouais.
C'est bien ça.
Oui, donc oui, dans l'habitat, un bâtiment, pour vous, vous me dites, le point de départ, l'essentiel, c'est que il soit de base neutre.
Alors, ça serait peut-être une réglementation hypothétique de 2020. Les entrées et les sorties seront neutres, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en termes de chauffage, par exemple, on va récupérer l'énergie humaine à l'intérieur du bâtiment, on va s'en servir pour créer du chauffage.
Qu'est-ce que vous appelez l'énergie humaine?
Les calories que tu dégages.
Le fait que de vivre, on dégage de l'énergie.
Ouais.
Voilà. Le fait de cuisiner, on dégage de l'énergie aussi.
Mais est-ce que ça va suffire à me faire chauffer ma casserole, moi?
Alors, du moment où les déperditions...
Ma chaleur corporelle.
oui, tout à fait. Du moment où les déperditions du bâtiment sont
bien
très très réduites, ouais. De l'ordre de 15 watts le mètre carré à peu près, on arrivera, de par notre vécu dans le bâtiment, de se chauffer de par notre activité. Bon, quand il fera très froid, effectivement, un bon feu de cheminée sera le bienvenu, mais sur 365 jours, il y aura 360 jours qui seront couverts, quoi.
Donc ça, c'est ce que vous souhaiteriez pour un objectif 2020, hein, au maximum. Et la réglementation dont vous parliez en début d'émission, la RT 2012, là, elle, qu'est-ce qu'elle dit?
Alors cette réglementation, elle est un petit peu en dessous. Elle a fixé un objectif de consommation d'énergie à moyenne par maison individuelle, 9 de 50 kWh par mètre carré et par an, on a une consommation de 50. Alors que le bâtiment neutre, lui, ben ça sera quasiment zéro.
Et alors 50, moi je me rends pas du tout compte, et puis j'imagine que les gens qui nous écoutent globalement non plus. Mais là, une maison
aujourd'hui
ancienne, ouais, là dans Rodez, je parle pas des plus anciennes où il y a des gros soucis. Mais bon, chez moi là, c'est quoi ma consommation à peu près?
Alors,
je suis un immeuble ancien, 1930.
Ouais. Alors là, vous abordez un domaine qui est fondamental, c'est la rénovation, hein, puisque le parc de rénovation est immense et un bâtiment qui ne serait pas isolé. Des années 30-40, hein, c'est facilement 300.
D'accord,
300 voire plus.
Fois 6 par rapport à la réglementation 6. RT 2012 à peu près.
Oui, c'est ça.
D'accord.
La 2005, elle était à 150.
Ouais. D'accord. Ah oui, donc déjà quand même, ils avaient fait entre 2005 et 2012, division par 3.
Oui, oui, aujourd'hui.
Sur le papier.
Non, mais elle a raison d'évoquer ces questions-là.
Tout à fait. C'est vraiment le mot réglementation. Une réglementation, elle est faite d'un schéma, et c'est pas sûr que ce schéma soit reproductible chez vous avec votre style de vie.
Ça, c'est comme les voitures quand on nous les vend à la télé, consommation de 0,3 litres tous les 200 km, et qu'on se rend compte que non.
Tout à fait. Ça marche pas comme ça.
D'accord. Là, s'il y a un point à développer, le point noir quand même dans la construction, c'est la formation.
Formation de
des artisans, formation aux techniques qui permettent d'économiser de l'énergie.
Et là, j'imagine, même si vous formez en tant qu'architecte il y a 15 ans, parce qu'architecte c'est comme du haut niveau, vous n'avez pas de formation là-dessus dans ce métier d'architecte, imaginez les artisans.
Eh ben oui. Et c'est là où il y a un point quand même qui est essentiel, c'est pouvoir aussi retourner aux anciennes techniques de bâtiment.
Ah, d'accord.
Et en rénovation notamment, et c'est là où au niveau de l'énergie, c'est au niveau de la réhabilitation, c'est vrai que faire du 100% étanche, du 100% renouvellement d'air réglementaire, des fois c'est beaucoup de gens me disent ah oui mais je vais étancher ma maison mais et quand j'ouvre la fenêtre qu'est-ce qui se passe? Ben oui, effectivement une maison ça se vit, une maison ça a des murs qui respirent et on fait des maisons de plus en plus étanches où tout est les gens n'ont plus besoin d'ouvrir les fenêtres mais leur relation à la nature, leur relation à l'extérieur ou même au bruit de la ville quand on est en ville, il n'existe plus. Moi, c'est ça, c'est ce rapport à l'humain qui est complètement perverti, qui fait qu'on ne vit pas bien. Donc,
on va en parler dans le détail avec vous, si vous voulez bien, dans un instant, dans l'Éco des Cimes en CFM. La thématique de cette émission aujourd'hui avec l'association Canopée et ses amis, c'est Énergie et Habitat. On va écouter le choix de Julie, justement, dans cette émission. Rita Mitsuko, elle m'a demandé, le titre c'est comme ça. Voilà, ça date peut-être de vos études d'architecte.
Ouais.
On se retrouve tout de suite après dans l'Éco des Cimes en CFM.
Ça fait peur si c'est ça.
parle énergie et habitat aujourd'hui dans l'éco-décime en CFM avec Thierry Eladjen, membre de l'association Canopée, et Julie Butcher, qui est architecte à Mur de Barrez et Paris. Alors oui, juste avant d'écouter les Rita Mitsuko, Thierry, d'une part, vous nous parliez de... commencez à nous expliquer un petit peu cette réglementation 2012 concernant les constructions neuves. Et Julie est intervenue en vue d'une... plus grande efficacité énergétique, enfin en vue d'économiser un peu d'énergie. Et Julie, de son côté, elle est intervenue en disant oui, mais première chose, il faudrait qu'il n'y ait pas forcément besoin de faire du neuf, il faudrait surtout qu'il y ait des artisans qui soient formés à cette peut-être pas nouvelle façon de construire, parce que vous disiez en fait, Julie, qu'il s'agit de retrouver des méthodes anciennes.
Oui, retrouver les méthodes anciennes, c'est surtout en ce qui concerne la réhabilitation, hein. Parce que effectivement, on construisait dans un contexte bien spécifique. Aujourd'hui, on a une manière de vivre qui est différente, et se mettre à mettre du polystyrène ou de la laine de roche et faire des boîtes complètement fermées, un crépissement à l'extérieur, on en fait des murs qui vont pourrir, qui vont s'abîmer très vite, et des murs qui vont pas respirer, et un inconfort, hein, de vie. C'est effectivement dans la rénovation, bien connaître le bâti et avec les nouveaux matériaux qui seraient plus écologiques, trouver la solution, et c'est faisable. Et ça ne va pas toujours dans le sens des normes.
Par exemple ?
Par exemple, on fait des bâtiments étanches, la réglementation nous demande de mettre des pares vapeur avec un coefficient d'absorption d'humidité qui est défini en mètres, ouais. Et qui doit, je crois, il doit être minimum de 20 mètres, un truc comme ça. Mais ça correspond à faire un peu une cocotte minute, de faire un bâtiment qui ne respire pas. Alors que avec des matériaux de construction, que ce soit des murs en bois, des murs en pierre, avec mortier terre ou mortier chaud, le mur, il aime l'humidité, hein. C'est pas un souci, du moment qu'il puisse la rejeter. Donc moi, quand je fais des maisons au saturbois, je mets des freins vapeur. C'est-à-dire, ça limite la pénétration, mais c'est un frein à vapeur qui est limité à 3,5 mètres. C'est-à-dire, c'est comme si l'humidité... et elle avait besoin de parcourir 3,50 m avant de pouvoir rentrer dans le matériau. Mais c'est réversible, donc ça permet aussi, c'est une vraie respiration entre jour et nuit, entre activité, pas activité à l'intérieur de la maison, et ça évite de faire des cocottes minutes, ça évite aussi de créer des pathologies au niveau du bâtiment.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander, parce que l'effet cocotte minute, on voit l'image, mais à la limite j'ai envie de vous dire... c'est quoi l'inconvénient? Est-ce qu'on tombe malade? Dans mon idée, effectivement, un appartement bien doit être aéré. D'ailleurs, on nous dit souvent d'aérer la maison.
Oui.
Bon, mais enfin, s'ils disent le contraire dans leur réglementation, on risque quoi?
Aujourd'hui, on dit pas qu'il faut ouvrir les fenêtres. Aujourd'hui, on dit qu'il faut avoir une ventilation suffisante. Ouais. Donc, ventilation. Donc, actuellement, encore dans la RT 2012, on est en simple flux. En hygro B, c'est-à-dire avec des débits qui sont fonction du taux d'humidité, mais encore la technologie n'est pas très évoluée à ce niveau-là, ou une ventilation double flux, mais c'est une usine à gaz, hein. C'est un coût. Et puis, alors par contre, c'est génial. Moi, je trouve le principe de double flux, de se dire on récupère l'énergie de l'air qu'on extrait. C'est génial, avec un rendement de quoi? C'est 98%
ou entre 90, voire 100.
C'est fabuleux, hein. Dans la technique, je trouve ça fabuleux. Mais dans le coût, en rénovation, alors dans du neuf, dans des gros bâtiments, effectivement, c'est peut-être gérable. Après, ça t'y dira plus. Moi, je suis pas trop sensible à ça. Mais dans l'habitat individuel, c'est terrible. Alors moi, je préfère dire aux gens, isolez bien. On va utiliser des matériaux naturels, on va laisser respirer vos murs, on va mettre moi j'utilise que des, pour l'instant, ventilation simple flux, j'ai fait un projet double flux qui n'est pas encore abouti, et puis n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres effectivement pour ventiler, je vais pas empêcher les gens à vivre parce que il y a des règles. Alors je suis désolée, c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de se dire c'était quoi 40% dans l'habitat, la consommation à l'usage, c'est énorme. J'ai pas de chiffre, moi, pour dire si j'ouvre ma fenêtre un quart d'heure par jour, ça va coûter combien. En tout cas, moi je suis pas du tout dans cette approche. Je suis déjà dans construire bien, construire confortable, utiliser des matériaux qui vont donner un confort thermique. Après, il y a des ventilations naturelles qui sont... C'est, le confort est important aussi.
La notion de confort n'est pas prise en compte, en fait, dans, dans une réglementation.
Alors, justement, vous, est-ce que c'est quand même une préoccupation c'est... Parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, Julie. C'est bien joli de vouloir pas consommer un poil de trop et le moins possible. Mais si c'est pour avoir une vie...
Oui.
De merde.
Mais c'est possible, hein. C'est tout à fait possible de faire ce que Thierry cherche à faire et en vivant bien.
Hein. Ah, bah, d'accord.
Et sans passer par toute cette, enfin, il faut, le problème, c'est qu'il faut, il faut se plancher là-dessus et il y a sûrement plein de gens qui planchent là-dessus. Mais c'est peut-être pas au profit des gros groupes industriels.
Voilà, c'est ce que je disais. Effectivement, les RT qui sont un petit peu noyautés par les groupes de lobbying, c'est quelque chose qui existe, hein, effectivement.
Et justement, sur quel point les lobbies ils freinent?
Alors,
parce que
moi, je vais donner un exemple.
Pour l'industrie, certains secteurs dans l'industrie, ça peut être intéressant. Justement, ça fait de nouveaux marchés, de nouveaux produits encore plus chers et hop.
Ouais, moi, je pense au bois énergie.
Oui, moi, je vais donner même pas bois énergie, même bois utilisation dans la construction. Il y avait une norme qui disait, avant le Grenelle, qui disait, bon, vous avez obligation d'utiliser tant de pourcents de bois dans la construction. Ça se résumait à mettre des plinthes en bois. Avec le Grenelle, ils ont dit, bon, ok, on augmente de, je connais pas les chiffres, mais on va dire, allez, de 600%. Mais, alors, comme ça, dans l'information, ça paraît, ouais, c'est génial, c'est bien, ils mettent vraiment en place quelque chose.
Du coup, c'est les plinthes qu'il faut mettre de haut.
Mais en fait, voilà, il suffit de mettre des portes et puis en bois et des plinthes. Donc, le bois est pas du tout valorisé au niveau de la construction. Enfin, à mon avis, enfin, j'en sais rien, hein, supposition, c'est qu'il y a des pressions aussi des autres lobbies.
Oui, des groupes internationaux, les multinationales, effectivement, ont un certain poids et des certains volumes à écouler. Et donc, quelque part, voir arriver certains matériaux, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter.
oui, on leur a pas laissé le temps de pouvoir faire leur sous avec.
D'autant plus que Canopé, parmi ses préoccupations, toujours dans la thématique de la sobriété énergétique, vous aussi, c'est l'utilisation, alors là, pour le coup, on parle d'habitat dans la construction, de produits qui viennent le plus près possible du lieu de l'habitat. Donc là, on est peut-être un peu loin des multinationales,
voilà,
parfois.
C'est ce qu'on appelle les énergies grises, hein, c'est-à-dire c'est toutes les énergies qui vont graviter pour obtenir les matériaux de construction. Effectivement, on a eu, de par le passé, on savait très bien construire un pisé ou avec des techniques terre qui étaient locales.
Ouais, locales, je voulais parler d'ici, l'Aveyron.
Oui.
Moi, je sais pas, je suis parisien, je connais pas.
Alors, à local, oui. Après, c'est des techniques de construction terre qui sont un petit peu différentes d'une région à l'autre.
D'accord.
Bon, il y a la pierre. On a su utiliser les matériaux locaux. Mm-hmm. Bon, le coût de l'énergie avant les années 70 était tellement bas qu'on est allé vers des solutions de facilité, c'est-à-dire on a utilisé du parpaing un petit peu à outrance, hein, et puis on a vu quasiment les maisons fabriquées quasiment à 80-90% en parpaing.
Ouais.
Depuis peu, on a revu arriver un petit peu la brique.
Qui est comme énergivore, par contre.
Qui est énergivore,
faut la cuire.
mais qui a des propriétés
isolantes,
perspirantes, ouais. Qui sont intéressantes. Hein. Bon, donc il y a d'autres techniques.
Et Julie, Julie, qui est architecte à Paris, mais à Bure-de-Barrez. Oui. À Bure-de-Barrez, il fallait qu'elle utilise que des matières premières qui soient de proximité locale, ça serait quoi?
Le plus simple, c'est le moins coûteux, c'est le bois, hein. Parce que la pierre, c'est beaucoup trop cher de construire en pierre.
Ah bon, c'est devenu trop cher parce que
oui.
Ah non, mais moi je me rends pas du tout compte. Je vois qu'effectivement il y a très peu de maisons de pierre qui se construisent.
Oui.
Enfin, mais les maisons anciennes, elles étaient toutes en pierre.
Tout à fait.
Donc,
mais
c'était pas cher à l'époque.
Je sais pas comment à l'époque
c'était pas du tout les mêmes.
Non, et puis c'était l'histoire d'une vie, c'était l'histoire de village, c'était l'histoire. Il y avait toute une histoire économique et sociale du village. Mm-hmm. Je peux pas raconter n'importe quoi, mais j'imagine qu'ils fabriquaient ensemble. Mm-hmm. Peut-être qu'ils faisaient venir de la main d'œuvre d'ailleurs moins cher.
Non, c'était du local quand même. Mais on n'était pas dans une logique de vite et pas cher.
Ah non.
Voilà.
Et les bâtisses, elles tiennent encore. Hein.
Mmh. C'est clair.
On construit, hein. Moi, je construis un petit peu en pierre, mais pierre banchée.
C'est quoi, pierre banchée?
C'est d'un côté béton et puis de l'autre pierre.
Ah,
ça fait pas des murs respirants, ça.
D'accord. Hein. Donc, pour vous, c'est le bois?
Pour l'instant, c'est...
Aujourd'hui, c'est abordable. Le bois est abordable par rapport à
beaucoup
de...
Oui. Enfin, moi, dans ma conception de l'habitat, bon, parce que j'ai pas le temps non plus, je suis pas engagée complètement... Mais j'utilise tous les matériaux. Je vais pas, bon, la laine de roche, tout ça, je déteste. Mais si le client a pas du tout d'argent, dans les cloisons intérieures, ben, en laine acoustique, il va mettre de la laine de roche. Donc, je vais répartir un peu les charges.
D'accord,
je vais essayer pour tout ce qui est toiture, mur, d'utiliser des bons matériaux, enfin, renouvelables. Qui coûteront un peu plus cher, mais qui seront effectivement encore un impact en énergie grise moins importante, qui peuvent être pas encore vraiment, mais des produits locaux, laine de bois, on n'en a pas encore vraiment, hein, ça vient d'Allemagne pas mal. Et puis, il y a des petits détails, oui, il y aura un peu de laine de roche. Le client, je lui proposais d'utiliser des peintures entre guillemets bio, mais bon, s'il a pas envie, ben après il fait ce qu'il veut, hein. Mais je les sensibilise de toute façon.
D'accord, ouais, vous leur dites.
Je vais jusqu'au bout.
Je vous propose tel avantage, tel intérêt.
Oui, oui. Et ils sont en général très vite touchés. Hein.
Alors touché sûrement, mais il devait être aussi une des premières questions, c'est combien ça coûte.
Oui, 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 oui. Mais ils font vachement de concessions. De toute façon, moi, j'ai, enfin, je. Enfin, c'est pas une croyance, mais je me rends compte un peu comment le monde fonctionne. De toute façon, on paiera toujours. Donc, après, si on va pas et on va avoir une réduction là, ben, l'argent, il sera récupéré ailleurs. Et de toute façon, tout l'argent qu'on gagne, les individus sont élevés à le dépenser.
À le dépenser, oui,
donc,
d'accord.
De toute façon, il sera dépensé. S'il n'est pas dépensé là, il sera dépensé ailleurs. Donc, c'est avoir une réflexion sur comment vous avez envie de vivre.
Vous avez raison, mais c'est pas comme si on avait tout le capital de toute notre vie d'un seul coup et qu'on décide de le dépenser d'un coup au fur et à mesure. Moi, j'aimerais même de temps en temps avoir un peu d'avance, mais la trésorerie, tout le monde n'a pas.
Oui, parce que c'est le projet d'une vie, quoi. Vu l'enveloppe que ça représente, effectivement. Ouais. Alors, c'est le côté économique un petit peu qui est difficile parce qu'il faut. Ce qui est vrai un jour n'est pas forcément vrai le lendemain. Exemple, j'ai rencontré l'autre fois des personnes qui m'ont dit, ça y est, on a trouvé de la laine de bois moins chère que de la laine de roche.
Ah oui.
Bon, ça reste à creuser. Mais c'est une tendance qu'on entend parler un petit peu dans la presse, hein, la radio. Et puis là, c'est des retours terrain qu'on a.
D'accord.
Donc quelque part, je pense que c'est assez fondé. Il faudrait regarder un petit peu plus, creuser, voir si on est bien à caractéristiques égales.
Oui.
Mais autrement, on s'aperçoit que il y a des histoires peut-être de volume, certainement, hein, qui font que la laine de bois ou des matériaux plus nobles sont en train d'arriver.
Et il y a le chanvre, hein, qui est bien aussi, qui est une plante qui pousse tellement vite et qui nécessite de peu d'eau.
Qui est une fibre creuse, effectivement.
Oui, je prescris aussi beaucoup la paille.
D'accord.
J'ai pas encore réussi, hein. mais j'en parle systématiquement. Et les gens sont sensibles. Alors après, à force de proposer, mais les gens, ils vont prendre petit à petit, et puis ils ont vraiment envie. Hein. Les gens sont sont débrouillards. À partir du moment où on leur laisse un peu le pouvoir de faire les choses pour eux-mêmes, sans être dirigés, ils sont très créatifs.
Alors là, on est plutôt sur de l'autoconstruction, puisque les organismes de formation attaquent à peine tout ce qui est construction paille.
Oui, je rappelle Thierry Lajenne que vous êtes entrepreneur et vous faites de la formation pour adultes, hein, dans le domaine des énergies renouvelables notamment.
Pas vraiment dans le bâtiment, mais sur le côté énergétique. Et donc là, c'est de l'autoconstruction, effectivement. Donc il y a un besoin de formation, comme on disait Julie, d'évolution sur de la paille, mais sur des techniques différentes aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise quasiment systématiquement de l'isolation par l'intérieur, qui est vraiment spécifique à la France. Quand on va en Allemagne ou en Suisse, on s'aperçoit qu'ils ont une longueur d'avance et ils travaillent sur des isolations par l'extérieur, donc qui ont des performances quand même très intéressantes. Le domaine de la formation est un domaine vraiment clé.
On va continuer de parler de ces sujets d'énergie et d'habitat dans cette émission L'Écho des Cimes en CFM avec l'association Canopée. Dernier titre, Thierry, qui l'a choisi, Benabar. L'effet papillon. On se retrouve tout de suite après dans l'Écho des Cimes en CFM.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons,
à nos papillons,
à nos pelles, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal,
c'est l'effet papillon, c'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé.
Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal.
C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Tant jolie comme expression, petite chose, dégâts immenses.
Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas.
C'est l'écho des ciments en CFM, dernière partie, énergie et habitat, c'est le thème de l'émission ce mois-ci avec nos deux invités, Thierry Aladjen, membre de l'association Canopée, par ailleurs formateur pour adultes, qui fait partie de la CAPCOP ici en Aveyron, et formation pour adultes sur les énergies renouvelables. Voilà Thierry. Et puis Julie Butcher est aussi avec nous, elle est architecte et du côté de Mur de Barrès et de Paris, vous l'avez entendu, sensibiliser notamment aux questions d'énergie et dans l'habitat pour le coup. Alors on revient à ces questions d'anciens et de nouveaux concernant soit la construction, soit la rénovation. Un des sujets que vous avez évoqué tous les deux à plusieurs reprises dans cette émission, ça concerne la formation. Toujours dans je le rappelle, le but de réduire sa consommation d'énergie. On a parlé des lobbies, on a parlé de ceci, de réglementation, etc. Mais souvent, vous m'avez dit, oui, mais c'est les artisans, ils n'ont pas la formation qu'il faut. C'est vraiment le...
Et les architectes aussi.
Et les architectes aussi, oui.
Ah oui, oui.
C'est ce qui achoppe le plus, finalement. C'est bête, ça paraît bête comme...
Je crois que la formation professionnelle concerne tout le monde, hein, puisqu'il y a des évolutions de matériaux et il faut que tout le monde s'en empare, en fait. Hein.
Ça, c'est si on veut pouvoir aller dans le sens de toutes les nouvelles réglementations. Hein. Maintenant, il y a un autre discours, c'est est-ce qu'il faut pas faire appel un peu à notre savoir-faire et d'éviter de tout réglementer, parce que ça devient impossible de tout réglementer.
Ouais, mais Julie, par exemple, la réglementation, vous êtes obligée de l'appliquer quand vous construisez.
Oui.
D'accord. Ah, d'accord. Il n'y a pas les contrôles derrière ?
Oui, apparemment il y a des contrôles.
Oui, sur le neuf.
Non, mais moi je le respecte pas toutes, hein.
D'accord.
Non, moi par exemple l'histoire du frein vapeur, j'utilise pas de pare-vapeur, j'utilise un frein vapeur. Et c'est des choses qui sont même appuyées par la Mutuelle des architectes français qui établissent des fiches techniques super. Et même eux le disent, non, effectivement. Alors moi en plus si eux nous suivent, il y a pas de souci. Hein. Moi je suis au niveau des maisons ossature bois, je suis pas 100% dans la réglementation. Par contre j'ai étudié le bois pour vraiment connaître le matériau et connaître toutes les difficultés, toutes les pathologies qui peuvent s'en suivre, et je réfléchis après. Je suis pas quelqu'un qui va droit, voilà, on me dit de faire ça, je fais, hein, je réfléchis, et après je vois ce qui est bien, ce qui est pas bien.
Thierry, vous, l'enjeu, comment vous voyez les choses évoluer avec cette réglementation, donc, bon, qui a quand même le mérite d'exister? Non, même pas.
Oui, elle a le mérite d'exister, d'autant plus que on va dans le bon sens puisqu'on a un raisonnement global qui tient compte de sa maison, de son exposition. On est quand même. Il y a eu un bond de fait. Hein. La globalité est quand même un domaine intéressant. Bon, moi, ce qui me pose souci, c'est bon en général, c'est les maisons neuves aujourd'hui, c'est à peu près à 15%, voire un petit peu plus d'augmentation de prix
par rapport à l'ancien.
Non, par rapport à l'ancienne
l'ancienne réglementation. D'accord, voilà. D'accord. Okay. Ah ouais, dis donc, c'est pas négligeable, 15% de plus.
Ouais. Et ça pose de réels problèmes.
Ah bah oui.
Puisque quand on voit un petit peu les niveaux de vie qu'on a aujourd'hui, qui sont à la baisse malheureusement, les gens mettent de plus en plus la main à la pâte.
Ouais. Mmh.
Bon, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que quand on regarde un petit peu des panneaux solaires juste pour produire de l'eau chaude sanitaire, on a des prix qui sont chers. N'ayons pas peur du mot. Parce que, en fait, en rénovation, on a du matériel qui est aidé. Un crédit d'impôt, on a des aides. Et donc, et dans le neuf, on n'a pas du tout
sur le neuf, non. Motivation financière à faire construire.
Non.
Des choses,
non.
Il n'y a pas les lois de Robien, machin.
Alors, pour du locatif.
Oui, mais il faut louer, oui, pas quand on veut s'acheter
d'accord,
pour
d'accord,
soi.
Ah oui, d'accord. Donc, l'ancien revient moins cher, même rénové. Ouais. L'ancien rénové revient moins cher que le neuf, parce que grâce aux aides publiques, quoi.
Alors moins cher, non, parce que les prix sont quand même assez élevés. Alors il y a certainement des étapes qui récupèrent pas mal d'argent en passage. Hein. C'est pas forcément le client final.
Oui. Est-ce que tu veux dire, Thierry, que comme il y a des aides d'État, les produits coûtent cher parce qu'ils savent que le client va récupérer de l'argent. Ouais. Donc au niveau rénovation, ben il rentre dans son budget, mais du coup en neuf, ben non.
Ça
passe plus.
C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait la réglementation, il y avait quelques aides. Maintenant, c'est la réglementation qui sert de couperet. Donc, on doit être conforme à la réglementation. Point à la ligne.
Plus globalement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à toujours construire du neuf? Pourquoi pas ne sans cesse rénover des constructions anciennes?
Oui, tout à fait. C'est une question qu'on se doit de poser.
Me posais la question parce que j'avais besoin de m'acheter une voiture. Et puis moi, j'ai toujours tendance à acheter des vieilles caisses pourries parce qu'elles sont plus belles. Et on me dit, oui, mais c'est pas écologique, ça dépense vachement plus. Et je me suis dit, oui, mais une voiture neuve, ça coûte combien en énergie à la construction? Alors, j'aimerais avoir des chiffres comme ça. Et effectivement,
moi,
dans l'habitat...
Voilà, là-dedans, il y a un choix, une préférence.
Non. En fait, c'est l'habitat existant. Effectivement, il a le mérite d'exister. Donc,
même s'il consomme un peu plus à la limite qu'un habitat neuf, l'énergie dépensée pour la construction, je suis pas sûr qu'il soit amorti sur la différence de consommation.
C'est un bilan global qu'il faudrait faire. Bon, aujourd'hui, on le fait pas. Il y a rien que les Suisses qui travaillent sur les énergies grises. Nous, la réglementation n'intègre pas c'est toutes ces énergies qui gravitent autour de ce bâtiment et qui ne sont pas. Nous, on est sur du fonctionnement, un coût de fonctionnement énergétique en fait. On n'a pas. Il manque un petit peu d'intégrer d'autres paramètres.
Tiens, là, on va malheureusement bientôt devoir se quitter dans cette émission l'Écho des Cimes en CFM. On n'a pas parlé. On a parlé de la France avec cette réglementation, mais sinon on parle toujours de l'Europe. Alors, on va bien parler de l'Europe dans cette émission, en bien ou en mal, je sais pas, vous allez me dire Thierry et Julie, mais il n'y a pas des réglementations européennes qui pour le coup pourraient être peut-être plus un peu plus dans votre sens à tous les deux?
Ah, complètement. Bon, je pense peut-être la réglementation 2020 ira dans une uniformisation un petit peu européenne.
Là en Europe, en France, la réglementation au niveau intérêt pour cette réduction de la consommation d'énergie, on est à quel rang? On est dans les bons élèves, dans les mauvais élèves?
Oh, on est dans le neuf, on est encore plus, enfin, on est un petit peu plus énergivore que les Allemands.
On est souvent derrière les Allemands. Ouais. Donc, que ce soit en habitat, ou les Suisses aussi, oui.
Ils sont plus nordistes, on va dire, ou plus froids, plus continental.
Ouais.
Bon, donc ils sont peut-être plus sensibles à la consommation d'énergie.
Après la crise du pétrole, les Allemands, ils ont commencé à isoler par l'extérieur. Nous, on s'y est pas mis. Hein.
Ouais, et puis nous, on a la solution de facilité qui est facilité entre guillemets du
l'énergie nucléaire. Ouais,
voilà. Donc aujourd'hui, on faisait l'électricité, on se servait de l'électricité pour faire du chauffage, ce qui est malheureusement un non-sens.
Donc pour l'avenir, en attendant une réglementation nationale 2020 un peu plus serrée, vous regardez plutôt vers l'Europe. Qu'il y aura des exigences plus fortes en matière d'économie d'énergie, ou alors à l'inverse, on revient à nous-mêmes, où c'est chacun en fait qui doit prendre la mesure du problème et chacun qui doit, dans la mesure aussi de ses possibilités, faire en sorte que quand il construit sa maison, ça rentre dans ses considérations.
Ben, il faut pas attendre d'être dans l'urgence pour agir. Moi, je dirais que dans les deux, il y a de bonnes choses à prendre. Commençons à prendre un petit peu de recul. Regardons ce qui se fait ailleurs, intégrons-le à notre façon. Et surtout, n'oublions pas ce que nous savons faire.
Julie?
Oui, moi, je raisonnerais juste au niveau créatif. Ils ont des super bonnes idées ailleurs. C'est hallucinant. Ne serait-ce, moi, déjà, pouvoir faire des ventilations avec des cheminées thermodynamiques, des ventilations naturelles gérées. Enfin, il y a des choses tellement fabuleuses, anciennes, hein, comme on peut trouver aujourd'hui avec le puits canadien. Et ça existe depuis des milliers d'années.
Jamais entendu parler du puits canadien.
Bah, c'est c'est un réseau aussi enterré qui utilise la chaleur de la Terre. La Terre étant toujours à une température à peu près constante. Plus chaude ou plus froide quand il fait très chaud.
Bien sûr.
Mais il y avait les ventilations en Iran, ils faisaient ça aussi avec où l'air venait lécher de l'eau et du coup rafraîchissait les lieux.
Dans des toits un peu ouverts.
Oui, voilà. Enfin, et donc ça se fait. Hein, en France aussi, ils ont dû en faire. Je sais pas.
Il faut s'accaparer ces techniques-là.
Des techniques géniales. Moi, ce qui est horrible dans la réglementation, c'est que derrière, je peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y a un fabricant, un lobbying qui fait tout pour vendre son produit et que ça bouge pas et ça évolue pas. Au niveau des ventilations mécaniques, il y a tellement de choses à faire.
Alors, pour la petite histoire, la RT 2012, la réglementation thermique 2012, n'oblige pas à ventiler. Il y a au contexte, et même j'ai trouvé le texte qui le précisa.
Il y a l'Igrobé, non ? Alors, c'est en bâtiment basse consommation.
Alors, il est recommandé, bien sûr, de ventiler, puisque les bâtiments étant un petit peu plus étanches.
Il y a intérêt, du coup.
Voilà. Donc, mais on pourrait très bien imaginer, mais ça ne se fait pas, d'ouvrir plusieurs fois la fenêtre, mais bon, personne ne le ferait.
Il y a aussi un point, je trouve, qu'on oublie beaucoup, et ce sera les prochaines crises mondiales, c'est l'eau, c'est la pollution de l'eau. Au niveau des énergies, le gâchis qu'on fait à polluer nos nappes, je pense que ça touche aussi... je trouve que ça touche le domaine du renouvelable. Ces assainissements collectifs là, avec des réseaux pas possibles pour pouvoir traiter de l'eau parce qu'on a été aux toilettes et qu'on a fait dans de l'eau, quoi.
Mmh. Oui, l'idéal c'est de mutualiser. Quand on peut mutualiser dans des écolotissements par exemple, où on mutualise sur des chaudières, on pourrait très, très bien imaginer de mutualiser sur de l'assainissement. Hein. Qui sont un petit peu plus...
Et il y a beaucoup à réfléchir sur l'assainissement. Mmh. Des toilettes en Suède qui ont des chasses qui dépensent même pas un litre. Nous, on en est encore à 3-6 litres. Il y a des trucs mais tellement simples qui sont pas mis en place, enfin que beaucoup de gens essayent de mettre en place, mais c'est toujours très individuel. Hein.
Ouais.
Ceci dit, j'adore le travail. Hein. C'est ce qui fait nourrir et c'est ce qui rayonne. Hein. Mais il y a la masse réglementaire, la masse du bien public qui est un peu lourde.
Allez, on pourrait poursuivre longtemps cette discussion. Ces discussions d'ailleurs autour de l'énergie ou de l'habitat ou d'autres, on peut en avoir avec l'association Canopé et ses amis, avec des... Vous avez un agenda là, Thierry, des prochains jours, prochaines semaines.
Au niveau des dates, je trouve qu'il est intéressant d'évoquer deux dates qui sont le 21 septembre. Donc, une marche pour le climat.
Où ça?
C'est partout en France.
Ah bah d'accord.
Voilà, il y a un site internet. Je vote pour leclimat.fr.
21 septembre.
Le 21 okay. septembre et le 27 septembre à Marcillac.
Ouais.
Donc l'association Les Jeudis en question organise à partir de 14h une après-midi sur la thématique des énergies renouvelables et qu'est-ce qui se fait localement et comment est-ce qu'on peut aller dans ce sens-là.
Ah ben voilà, complètement dans notre sujet.
Il y a un troisième point, je voulais souligner quand même le travail qu'a fait l'espace Info Énergie, l'animation intitulée « La famille énergie positive
ouais. »
qu'on retrouve dans d'autres départements. Et là, c'est de la sensibilisation, on est bien sur la thématique négawatt, sensibilisation aux économies d'énergie et de l'efficacité aussi de par le comportement.
Ce point Info Énergie, c'est quoi, c'est où ?
Alors ici, c'est à la DIL. Il en existe dans tous les départements.
Un par département. Point info
Alors,
énergie.
Un ou deux par département.
D'accord. Bon, on peut retrouver, j'imagine, toutes ces informations sur le web. Tiens, puisqu'on est à parler de web, vous avez des adresses à donner, Thierry, pour trouver plus d'informations. Tiens, par exemple, si, moi, je vous emmène sur quelque chose. Cette conférence climatique l'an prochain à Paris.
Ah oui, alors donc.
Ah bah oui, c'est un événement mondial. On va voir tous les présidents dans leurs plus beaux costumes à Paris l'an prochain pour nous parler de climat.
Voilà, donc après Copenhague, donc c'est il s'agit de Paris, décembre 2015.
Et voilà.
C'est un petit peu lié aussi au 21, hein, où les citoyens ont envie de se prendre un petit peu en charge et de dire à nos représentants politiques d'être plus acteurs dans le sens de la transition énergétique. Donc 2015, j'espère qu'il y aura des résultats. Là, il s'agit de se bagarrer sur les effets de seuil. Donc il s'agit de pas dépasser les fameux 2 degrés, parce que là, on ne sait pas trop. Les climatologues sont pessimistes.
Sur l'augmentation globale des températures.
Voilà, c'est ça. Sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc là, il faut être acteur.
Bon, on surveillera ça, évidemment. L'an prochain, d'ici là, évidemment, on retrouvera l'association Canopée et ses amis pour un nouveau numéro. Peut-être aussi Julie Butcher, architecte. Hein. Julie, vous, là, que vous repartez à Mur de Barrès ou à Paris ?
Mur de Barrès.
D'accord. Et vous travaillez sur quoi en ce moment ? Bon, sauf si c'est un sous-marin nucléaire, vous n'avez pas l'ordre de le dire.
J'ai 18 trucs en cours.
Ah, voilà. D'accord.
Oui, c'est de l'habitat.
Du logement.
Du logement pour les particuliers, ouais.
Bon, bah écoutez, amusez-vous bien.
Ouais.
Hein, merci Thierry, merci Julie.
Merci. Merci.
Et à très bientôt en CFM.
Merci.
Au revoir.
CFM. 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 L'esprit rock.